Bonjour et bienvenue dans ce podcast Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et bien-être, et je pratique le yoga depuis plusieurs années. Pour moi, c'est une pratique qui infuse notre quotidien, qui modifie notre rapport au corps, et même parfois qui aide à voir les choses autrement. Dans ce podcast, j'ai eu envie de donner la parole à des professeurs passionnés pour échanger avec eux sur des thèmes variés en lien avec le yoga et notre quotidien. Dans cet épisode, on va parler de la souplesse. C'est généralement une des premières idées qui viennent en tête quand on parle de yoga, on associe la pratique aux images de grands écarts ou de positions acrobatiques qui demandent beaucoup de souplesse. Et du coup, c'est aussi souvent l'un des freins avant de commencer le yoga, on a tendance à se dire qu'on est trop raide et que ce n'est pas pour nous. Alors je vous rassure tout de suite, vous allez voir que ça n'a aucune importance et que d'autres qualités ou aptitudes sont bien plus centrales dans la pratique et surtout que tout le monde peut devenir beaucoup plus souple. C'est ce que va nous expliquer Camille, professeure de yoga, qui propose des cours en ligne sur YouTube, Facebook et sur sa plateforme Cam's Yoga. Camille, bonjour, merci beaucoup de me rejoindre pour cet épisode.
Merci beaucoup à toi, Laura.
D'abord, je vais te poser la question traditionnelle. Comment est-ce que toi, tu as découvert le yoga? Et puis, est-ce que tu peux nous dire aussi, vu que c'est notre sujet, est-ce qu'au début, tu te considérais comme quelqu'un de très souple quand tu as commencé? Ou est-ce que toi, c'est plutôt venu au fur et à mesure de la pratique?
Alors, j'ai commencé le yoga, je l'ai découvert la première fois au sein de mon entreprise. À la base, je travaillais en communication. Et en fait, ils ont proposé des cours de yoga dans l'entreprise. Donc, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et c'était du yoga Iyengar. J'ai trouvé ça très dur, très difficile, mais ça m'a intéressée. Et c'est en m'intéressant à ça que je me suis demandé quel était le meilleur yoga pour débuter, en tout cas les postures de base, comprendre un peu la mécanique, d'où ça vient, ce que c'est que cette philosophie. Et en fait, j'ai découvert les cours au centre Shivananda de yoga à Paris, donc un yoga Hatha yoga très traditionnel. Et c'est là que j'ai commencé en fait mon petit chemin dans le yoga, où après j'ai découvert encore d'autres styles. Et à la base, pour répondre à ta question sur la souplesse, j'avais fait de la danse plus jeune. Alors souvent on dit que la danse, du coup, ça aide pas mal avec la souplesse. Alors moi, j'avais une professeure qui nous poussait pas du tout à être souple, à avoir notre grand écart. Enfin voilà, on faisait de la danse, donc évidemment on s'assouplissait forcément un peu, mais j'avais jamais eu mon grand écart, par exemple. Souvent souplesse égale grand écart.
Oui, c'est un peu l'étendard, voilà, est-ce que j'arrive à faire le grand écart ou pas? Donc toi, avant le yoga, tu ne l'avais pas.
Je ne l'avais pas et j'étais très loin de l'avoir, je n'étais pas la plus souple du tout des danseuses. Voilà, je pense que ça a pu m'aider en tout cas à avoir un peu plus de souplesse plus jeune, mais je n'en ai pas fait non plus des années. J'ai fait 3 ans de danse et j'ai vite arrêté aussi après avec mes études. Mais j'avais quand même ce manque en fait de la relation aussi au corps que j'avais un peu perdu quand j'ai arrêté la danse. Et quand j'ai commencé en fait le yoga, les tout premiers cours, ça m'a vraiment ouvert quelque chose d'encore plus, une dimension encore que j'avais pas du tout en danse, qui était d'écouter en fait son corps et d'aller de cette communication entre corps et mental et réussir doucement à aller dans son sens sans rien forcer. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas du tout eu en danse.
Une approche complètement différente.
Très très différente, ouais.
Ben moi, j'aimerais qu'on attaque direct, qu'on commence par déboulonner ce mythe. Pourquoi est-ce qu'on croit toujours qu'il faut être souple pour faire du yoga, et d'où vient cette idée à ton avis?
Cette idée, ça vient très facilement d'Instagram, je pense. De toute façon, les photos qu'on voit affichées partout sur Internet, c'est la première approche que je pense qu'on peut avoir du yoga, surtout aujourd'hui, qui est très viral, qui fait beaucoup parler de lui. Donc c'est quelque chose, la première approche, c'est je vois une photo sur Instagram, c'est quoi? C'est du yoga. Donc du coup, faut pouvoir faire ça pour faire du yoga. Donc telle posture, posture sur les mains, posture les grands écarts, enfin des acrobaties en fait, qui peuvent aussi être tout autant de la gymnastique que des arts du cirque ou des choses comme ça. Donc je pense qu'on a cet a priori sur le yoga qui forcément n'est pas la bonne manière de le comprendre au début. Je pense que aussi je m'en suis rendu compte en enseignant, parce que j'ai eu énormément de questions. J'aimerais bien commencer le yoga, mais malheureusement je suis vraiment raide comme un piquet, donc je vais pas pouvoir. J'ai des amis qui en font, mais eux ils ont fait de la danse avant, donc c'est plus simple pour eux, enfin des choses comme ça. Ce mythe un peu, c'est comme si on disait il faut être propre pour prendre une douche. Faut le retourner dans l'autre sens et c'est en fait la pratique du yoga qui va venir assouplir finalement le corps, assouplir aussi le mental. Mais c'est pas du tout un prérequis pour faire du yoga. En fait, il y a juste besoin d'avoir son corps, d'avoir un esprit. En général, tout le monde est à peu près doté de ça. Donc tout le monde peut en faire. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. On se rend compte qu'aussi les plus jeunes sont souvent très souples. Mais il y a aucune limite. Tout le monde peut faire du yoga. C'est ça qui est beau.
Ouais, et au début, si on n'est pas souple, ça va pas nous empêcher de suivre le cours, parce que j'imagine qu'on peut avoir peur de se retrouver à être le seul dans la classe qui va pas réussir à faire la posture. Donc peut-être déjà commencer par dire que ce côté égo, comparaison, finalement dans le yoga, on le laisse de côté, ouais, et qu'on va pouvoir suivre un cours même si on n'est pas souple au début.
Alors exactement, en fait, au début, ce qu'on a peur, c'est tout de suite se comparer aux autres. Donc ça, c'est déjà une première étape dans le yoga, c'est réussir à laisser exactement cet ego de côté et se dire, en fait, c'est toi qui es dans ton corps, sur ton tapis, et qui observe ta mobilité, qui observe tes ressentis corporels, qui observe ta respiration. C'est de se dire qu'on est chacun constitué différemment. Et donc, il y en aura peut-être un à côté de toi qui fait peut-être du yoga depuis longtemps, ou pas d'ailleurs, mais qui a peut-être eu plein d'autres activités derrière lui qui a fait qu'il arrive à faire cette posture. Il peut y avoir plein de choses. En fait, on est tous différents et on est constitué différemment. On n'a pas la même taille des os. On a tous eu un passé différent. On a tous... mentalement des choses, des peurs qui nous empêchent d'aller dans une posture ou quoi. Donc en fait, ça n'a aucun sens de se comparer avec les autres personnes qui sont présentes dans un cours, par exemple. Ensuite, évidemment, pour un débutant qui ne s'est dit pas souple, il va vite ressentir l'effet de la posture, c'est-à-dire le ressenti physique, ça va tirer, par exemple, dans l'arrière des jambes, dans les ischio-jambiers. Et en fait, tant mieux, parce que dès qu'il va le ressentir, il va tout de suite être dans la posture juste, l'important étant toujours les ressentis qu'on dans le corps et la respiration qui va amener à relâcher justement les muscles. Donc en fait, finalement, ça sera d'autant plus gratifiant de ressentir ces choses dans son corps pour vite ensuite se rendre compte qu'on progresse, en fait, de posture en posture, de cours en cours. On se voit plus vite progresser quand on commence de très loin.
C'est quand sûr, on est ça déjà... laisse une marge de progression. Ouais. Et je sais pas si on prend par exemple la posture du chien tête en bas, qui est une posture iconique en yoga, qu'on voit souvent passer en photo et puis qui arrive souvent très vite dans les cours. Est-ce que si on n'arrive pas à avoir les jambes tendues dans la posture, si on n'a pas les talons qui touchent le sol, s'il faut plier les genoux, est-ce que ça nous empêche de profiter des bienfaits de cette posture ou pas du tout ?
Alors moi, le chien tête en bas, je l'enseigne pas du tout en disant qu'il faut tendre les jambes et mettre les pieds par terre, et malheureusement, les talons par terre. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont l'impression que cette posture, il faut forcément exactement faire ça pour pouvoir être dans la posture. Comme je disais, c'est le ressenti dans les postures qui est important, et de savoir l'utilité de la posture, quelle est la finalité. Donc la finalité dans le chien tête en bas, bon, on peut en avoir plusieurs selon ce qu'on veut travailler dans une séquence, mais par exemple, généralement, c'est réussir, donc déjà étirer l'arrière des jambes, et surtout allonger toujours sa colonne vertébrale, se repousser du sol, donc on commence à muscler aussi un peu le haut du corps, les bras, les épaules. Et donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir le dos le plus droit possible. Donc si on commence à mettre les talons au sol et qu'on voit que le dos s'arrondit et qu'on est tout contracturé, on le ressent aussi qu'on n'est pas bien dans la posture et on sent que ça ne nous fait pas du bien. Donc finalement, c'est se mettre dans une posture, une variation qui va nous permettre d'être le plus confortable et le plus stable possible pour pouvoir rester dans la posture suffisamment longtemps pour en ressentir les bienfaits. Donc dos droit et étirement de l'arrière des jambes. Du coup, moi, je dis souvent de plier les genoux. Mmh. Et ensuite, vous voyez, en fait, si vous sentez que j'ai bien avec les genoux fléchis, on garde les genoux fléchis et c'est très bien.
Et peut-être qu'on peut préciser aussi qu'il y a des accessoires qui peuvent nous aider quand on commence le yoga, enfin même tout au long de la pratique. Si on n'est pas très souple, je pense aux briques, je pense aux sangles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on les utilise et comment ça va des fois venir compenser un manque de souplesse dans certaines postures ?
Oui, alors en Hatha Yoga, c'est vrai que ça aide beaucoup d'avoir des briques et des sangles, parce qu'on vu qu'on prend le temps d'être dans les postures, on prend le temps de s'y installer. Donc par exemple, quand on a un manque de souplesse, je pense notamment au bas du dos ou dans l'arrière des jambes, souvent rien que de s'asseoir dans une posture à 90 degrés, donc s'asseoir dans la posture du bâton par exemple, les fesses au sol, ça peut être quelque chose de très difficile parce que le dos n'est pas forcément droit dans cette posture, on va vite se voûter. Donc pour éviter ça, on peut mettre une brique par exemple sous les fesses pour tout de suite avoir un angle un peu moins difficile pour de manière à avoir le dos droit et d'avoir les jambes allongées. Tout de suite, on va sentir ici. Donc là, la brique peut être utile. On peut mettre une brique ou des coussins. Mais souvent aussi, dans un début de cours, on va tout de suite demander aux gens de s'asseoir confortablement. Mais parfois, s'asseoir confortablement, pour quelqu'un qui n'est jamais assis par terre, c'est très difficile en fait. Donc souvent, les briques aussi vont aider à avoir ce petit... cette petite aide pour se sentir un peu mieux, donc les hanches au-dessus des genoux, souvent ça décompresse un peu aussi les douleurs de genoux. Et les sangles, évidemment, quand on a du mal à atteindre, je pense par exemple, on est allongé au sol et on essaye d'attraper son pied pour venir le tendre la jambe vers le ciel, on peut pas toujours être confortable, on a le bras qui penche un peu sur le côté, on n'est pas très, très droit, donc la sangle peut aider à avoir un peu plus de lest, à avoir un peu plus de stabilité au début pour se remettre droit. Mais comme je dis souvent dans mes cours, si vous n'avez pas de briques, si vous n'avez pas de sangle, il y a toujours d'autres accessoires qu'on a à la maison, on a un collant, une ceinture, et puis s'il n'y a pas, on fait ça, en fait c'est simplement pour ressentir des choses différentes en fait avec les accessoires, mais on peut aussi faire sans évidemment.
Oui, l'idée c'est que de toute façon il y a toujours des adaptations que le prof va être à même de te donner si tu n'es pas assez souple. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs qu'au début c'est toujours plus intéressant de commencer avec un prof dans un studio que d'essayer tout seul. Voilà, c'est-à-dire que si on n'est pas souple, il y aura toujours une façon de faire d'une manière ou d'une autre la posture est demandée.
Bien sûr, et généralement. Les professeurs, quand ils vont voir qu'il y a des niveaux très différents dans un cours, on viendra toujours par une variation accessible à tous, puis ensuite proposera d'autres choses pour que tout le monde puisse s'y retrouver et que ceux qui veulent rester dans une variation puissent s'y sentir bien et confortable sans avoir besoin d'essayer à tout prix de faire quelque chose d'autre alors que c'est pas juste pour eux en fait.
Et d'ailleurs, quand on parle de souplesse, c'est vrai que souvent on a l'idée du test, c'est est-ce que si je me penche en avant, j'ai mes mains qui touchent le sol en gardant les jambes tendues, ou est-ce que j'arrive à faire le grand écart? Mais qu'est-ce qu'on entend en fait quand on parle de souplesse? Est-ce qu'il y a différents types de souplesse? C'est-à-dire est-ce qu'on peut-être ne pas être très souple des jambes, mais être souple à d'autres endroits du corps? Comment on peut définir ça?
Oui, alors en fait, la souplesse... C'est surtout une amplitude de mouvement, donc effectivement on peut avoir la souplesse dans les jambes, la souplesse de la colonne vertébrale, la souplesse dans les épaules. Il y a plein de types de souplesse à travailler dans toutes les amplitudes. Et finalement non, c'est pas forcément que si tu arrives à poser les mains au sol, c'est bon, t'es souple, tu peux tout faire. Il y a plein de choses à assouplir dans le corps, et pas que dans le corps d'ailleurs, dans l'esprit et le mental aussi. Mais effectivement, le test général, ça serait plutôt, si tu te sens vite, en fait, tu manques vite d'amplitude dans à peu près toutes les positions que tu essayes, effectivement, tu peux te dire que tu manques un peu de souplesse. Souvent, on s'en rend compte, en fait, dans les activités quotidiennes. On porte les courses, on se fait un peu mal au dos, on est souvent posé devant son ordinateur. En fait, on a beaucoup d'activités très sédentaires, surtout avec le confinement qui nous a encore plus sédentarisés. On se rend compte qu'on a besoin de mobilité parce qu'on a des douleurs qui arrivent, et c'est souvent par ces douleurs qu'on commence aussi des cours de yoga, parce que maintenant, heureusement, de plus en plus, il y a des médecins qui conseillent aussi de faire du yoga, de pratiquer le yoga. Parce que voilà, on en vient à attendre d'avoir mal pour se rendre compte qu'on manque en fait de mobilité dans le corps, et que dans ce cas, le yoga sera conseillé pour assouplir tout ça.
Et justement, est-ce que la souplesse, il faut le voir comme ça aussi? C'est-à-dire pas quelque chose pour faire joli et pour arriver à faire la posture parfaitement, mais quelque chose qui, si on l'améliore, va nous aider dans le quotidien à mieux bouger, à avoir moins de douleurs. C'est à ça que ça sert finalement la souplesse?
Pour moi, oui, une première bonne raison de se dire que la souplesse, effectivement, ça va déjà réduire les maux qu'on peut avoir, donc les maux physiques, mais aussi, en fait, quand on est stressé, ça va tout de suite nous contracter le corps. C'est pour ça, toujours le mental et le corps sont très très liés, donc tout ce qui est émotionnel, ça va tout de suite se ressentir et se revoir dans le corps. Donc quand le corps ensuite se relâche, finalement, émotionnellement, mentalement, le mental va aussi se détendre, être... plus zen, plus calme. La respiration va être aussi beaucoup plus souple. Et donc du coup, en général, tout va ensemble. C'est un cercle vertueux qui va amener ça. Donc ça va être pas qu'une question de souplesse, mais ça peut être un premier pas vers le yoga. Ensuite, ça peut être aussi pour les sportifs quelque chose d'intéressant de se mettre au yoga, ceux qui ont des sports assez intenses. Je pense à la course à pied, mais je pense, voilà, ça peut être la natation. En fait, ça peut être n'importe quel sport, l'escalade. Ça va être un très bon complément de travailler avec le yoga parce que ça va permettre en fait de maximiser ensuite toute leur performance sportive quand le yoga va vraiment réussir à détendre les muscles et à revenir à soi et éviter finalement les blessures sportives qu'on pourrait avoir dans leur sport de prédilection, dans un sport de haut niveau par exemple.
C'est vrai que souvent les gens se plaignent de ne pas être assez souple, voilà, ça les embête de ne pas pouvoir aller très loin, mais est-ce qu'à l'inverse c'est pas parfois aussi un problème quand on est très souple, très lax, et dans la pratique est-ce que ça peut aussi gêner finalement?
Oui, je dirais que c'est même plus embêtant parfois d'être trop souple. Alors quand on dit trop souple, oui, je parle d'hyperlaxité. Moi-même, je me suis rendu compte que j'étais hyperlaxe, notamment dans la colonne vertébrale. Je ne savais pas en fait avant de faire ma formation de yoga et je trouvais que j'avais des facilités à faire certaines postures et je ne savais pas en fait vraiment... ce que ça voulait dire finalement. Je me suis dit, oh bah c'est bien, naturellement j'y arrive. Puis finalement j'ai commencé à ressentir des douleurs en fait, des douleurs dans la colonne vertébrale, en bas du dos, des pincements qui me faisaient très mal et je me suis dit bon voilà, je fais du yoga, je sais que c'est pas normal de ressentir de la douleur et souvent on essaye de comprendre en fait de quelle posture ça vient, qu'est-ce que j'engage, qu'est-ce que je fais pas bien. Et je me suis rendu compte que c'était parce que je me laissais aller vers l'arrière sans finalement utiliser les bons muscles et utiliser les bonnes parties du corps pour finalement maintenir le corps dans la posture. Je me laissais complètement la souplesse, donc l'hyperlaxité de ma colonne, faire le travail et donc ça continuait de simplement abîmer finalement mon corps plutôt que d'être pleinement dans la posture. Il y a beaucoup de personnes qui sont hyperlaxes, donc de différentes parties du corps, et on ne se rend pas compte en fait. On fait les choses sans avoir eu ces étapes que c'est pour ça quand je dis un débutant a la chance de pouvoir découvrir le délice de ressentir et d'aller chercher la sensation puis de sentir qu'il peut aller plus loin. Mais en fait quand on est hyperlaxe, on n'a pas ces étapes là et en fait on va directement dans une posture où on n'a jamais eu à besoin d'intégrer ce que ça impliquait dans le corps. Quand on est hyperlaxe, faut surtout justement éviter d'aller trop vers ce vers quoi on a de la facilité, mais justement essayer de maintenir les muscles ensemble.
Ça, c'est vrai qu'on entend souvent les profs de yoga dire dans une posture on doit être à peu près à 70% de ses capacités, mais pas à 100%. Est-ce que ça, c'est un discours que toi tu as envers tes élèves, et quand tu repères que certains sont très souples, est-ce que tu les avertis là-dessus d'essayer justement de pas aller trop loin? Ça, c'est peut-être pas facile aussi de rester en dessous de ses possibilités en termes de souplesse, de pas aller aussi loin que ce qu'on pourrait dans une posture pour se protéger, pour protéger son corps.
C'est toujours important qu'ils puissent être à l'écoute de leurs limites. Il faut pouvoir sentir un étirement, donc, parce que certains vont être trop dans l'inverse, c'est-à-dire je veux surtout pas aller plus loin que ça, alors qu'en fait ils en auraient la capacité et finalement ça leur permettrait de progresser un petit peu dans leur découverte de la posture. Et certains veulent à tout prix aller au-delà de tout et réussir la posture finale, quitte à ne même pas pouvoir la tenir. Moi, mon discours là-dessus, ça sera vraiment de pouvoir toujours respirer confortablement dans la posture et pouvoir ressentir un étirement. Quand on peut respirer confortablement, c'est qu'on est confortable dans la posture et qu'on puisse toujours ressentir cet étirement et qu'on soit stable, c'est-à-dire qu'on puisse chercher une immobilité dans la posture. Quand on a ça, en fait, on est dans la posture, on est dans l'asana. Si au contraire on suffoque, on a du mal, on bouge dans tous les sens, c'est qu'il y a quelque chose qui est... soit qu'il faut revenir à quelque chose d'un peu plus... une variation un peu moins difficile, soit simplement se poser, reprendre quelques respirations et revenir tranquillement dans la posture.
D'accord. Oui, ça peut être un bon repère, effectivement, l'état de sa respiration. C'est vrai que si on se retrouve à être en apnée ou à grimacer, bon, bah là, c'est qu'on est, on est allé trop loin, quoi. C'est ça qui est important en yoga, c'est de trouver le juste effort et la juste amplitude par rapport à son corps, à soi.
Exactement. C'est vrai que c'est une question qui est beaucoup posée pour les débutants qui ne savent pas vraiment encore savoir si eux, ils sont dans la douleur ou ils sont dans l'étirement. Et en fait, c'est à force de pratiquer, mais c'est vrai que quand on ne sait pas trop, on s'en rend compte tout de suite après la séance, en fait. S'ils ont, en fait, cette sensation qui perdure longtemps après, c'est que c'était peut-être de la douleur, que c'est pas censé être quelque chose qu'ils sont censés ressentir sur du long terme et qu'ils étaient censés juste le ressentir pendant l'étirement. Donc dans ce cas, aller moins loin à ce moment-là pour les prochaines séances.
Et alors, est-ce qu'on peut garantir à tout le monde que même s'ils sont raides comme des piquets au départ, tout le monde peut progresser en souplesse, améliorer sa souplesse, notamment à travers le yoga? Ça, c'est obligé, on va forcément progresser.
Oui, le yoga, en fait, va venir améliorer la souplesse, la mobilité dans le corps, les amplitudes. Donc, tout le monde, il gagnera en souplesse. Ça, c'est sûr. Après, tout le monde ne veut pas forcément savoir faire son grand écart, savoir faire la posture de la danseuse. Enfin, toutes ces postures qu'on voit sur Internet ne sont pas ce pourquoi on vient forcément faire du yoga. Parfois, on commence par ça, on se rend compte que le yoga, ce n'est pas les postures et bien loin de là. Mais c'est bien de démystifier un peu la chose et de se dire que voilà, peu importe la souplesse qu'on a, peu importe où on en est, peu importe, en fait, n'importe quelle personne pourra y trouver ce qu'il faut dans le yoga, et effectivement, la souplesse sera au rendez-vous.
Ouais. Et est-ce qu'il y a des pratiques, des types de yoga qui vont aider plus que d'autres? Est-ce que le yin, par exemple, le yin yoga, via la détente musculaire que ça peut apporter, va aider à aller vers plus de souplesse? Ou est-ce que si on pratique du yoga dynamique, ça va être le cas aussi? Est-ce que tous les yogas sont bons, ou il y en a peut-être certains qui vont insister un peu plus sur cette notion de souplesse?
Alors, tout type de yoga, travaille... équilibre, souplesse, force dans tout un cours entier, complet de yoga. Ensuite, il y a des yogas qui sont plus ou moins connus pour une souplesse. Donc on va travailler dans les fascias, dans l'étirement en fait intense, à l'intérieur des membranes, à l'intérieur du corps. Donc effectivement, le yin yoga, ça va être un yoga du relâchement total, donc qui sera vraiment conseillé si on veut aller un peu plus loin dans la souplesse. Après, je ne conseille pas de faire que du yin yoga, surtout si on est hyperlaxe, par exemple.
Est-ce qu'on peut rappeler en quoi ça consiste, du coup, le yin?
Alors, le yin yoga, oui, ce sont des postures, donc souvent on est au sol, et ce sont des postures de relâchement où on va venir rester plusieurs minutes pour détendre complètement les muscles, et venir en fait être dans un état un peu méditatif où on va rester plusieurs respirations dans l'immobilité de la posture, relâcher complètement le corps dans des postures d'étirement. Souvent ça, c'est autour de postures d'ouverture du bassin, mais ça peut être au niveau du haut du dos, de la colonne vertébrale, mais souvent on est allongé au sol puisqu'on reste quand même très très longtemps dedans. Le Hatha Yoga, c'est aussi un yoga où on reste quand même suffisamment longtemps dans les positions pour pouvoir relâcher complètement les muscles, sentir cet étirement du muscle qui va venir détendre complètement le corps. Après, tout ce qui est Vinyasa, Ashtanga, ce sont des yogas plus dynamiques. Voilà, l'Ashtanga, ça reste aussi un yoga où on va travailler
Là, dans ce cas-là, avec le Vinyasa, c'est plus la répétition aussi des enchaînements. C'est vrai qu'on le sent, c'est assez agréable de voir que quand on répète pour la troisième fois le même enchaînement, on va à chaque fois beaucoup plus loin dans la posture. La souplesse vient du fait aussi que le corps se réchauffe à chaque flow.
Effectivement, le corps, en fait, est tout le temps en mouvement, et ça permet d'avoir les muscles chauds et de pouvoir rester aussi. Donc on reste plutôt 5 respirations dans les postures, donc souvent moins qu'en Hatha et beaucoup moins qu'en Yin. Mais c'est une autre forme de yoga, mais c'est une manière aussi d'être toujours dans l'écoute aussi du corps. Et ça va être la même chose pour tout type de yoga, c'est l'écoute, la respiration et cette relation en fait entre corps, mental. Donc très important d'avoir ça, d'avoir cette notion-là qu'on n'a pas dans les autres disciplines.
Et est-ce que toi, il y a une ou deux postures que tu aimerais nous détailler, que tu aimes bien pour travailler sur sa souplesse en douceur, en étant à l'écoute de son corps?
Alors moi j'aime bien la posture de la pince assise, donc Paschimottanasana. C'est une posture où on peut commencer par le bâton, donc on est assis par terre avec les jambes tendues. Donc on peut mettre une brique ou deux sous les fesses pour venir chercher un petit peu plus de hauteur, les hanches un peu plus hautes que les talons. Et d'avoir donc soit avec les jambes tendues, soit on fléchit les genoux, on rapproche les talons un peu plus de soi. Et on peut choisir, soit on prend une sangle qu'on passe autour de ses pieds pour venir allonger sa colonne vertébrale et chercher toujours à se grandir, l'auto-grandissement toujours de la colonne. Puis doucement d'aller un peu plus vers l'avant, de rapprocher le nombril de ses cuisses jusqu'à sentir un étirement. Donc là, on va le sentir souvent dans les ischio-jambiers, mais on va le sentir aussi dans le bas du dos. Donc là, ça va être un très bel étirement qu'on peut faire comme un yin. Donc on peut rester plusieurs respirations vraiment longtemps dans la posture, ou voilà, continuer à l'inspiration, on allonge sa colonne, à l'expire, on continue d'aller un petit peu plus loin en respectant donc bien ses limites.
Mm-hmm. Et sans arrondir le bas du dos, c'est ça, on vise plutôt l'allongement du dos.
Toujours l'allongement du dos, toujours l'allongement maximal de la colonne vertébrale. Voilà, en général, sauf des postures vraiment spécifiques, ça va être toujours le dos le plus droit possible. Pour savoir si on est bien placé, souvent c'est parce que le dos est bien allongé. Là, à partir de là, normalement, vous êtes à peu près bon. Voilà, après, une autre posture là, que j'aime beaucoup aussi pour, par exemple, la posture du pigeon. Mais ça peut être une posture qui est un peu...
Intense,
ouais. Un peu difficile à se mettre dedans. Donc moi, je préconise aussi de mettre des briques, des coussins là où on veut pour vraiment pouvoir être assez suspendu dans les airs. Hein, parce que souvent, on voit tout le monde... Voilà, il y a ceux qui ont l'habitude d'avoir les hanches au sol, mais ça peut être très difficile d'être tout de suite au sol, donc on n'hésite pas à se mettre des briques sous les cuisses, des coussins pour surélever un peu, pour être vraiment confortable. Puis ensuite, de la même manière, on s'allonge un petit peu plus vers l'avant pour ressentir un étirement donc plutôt intense, ouais, au niveau des fessiers. Donc ça, c'est aussi une belle posture de détente aussi et du coup d'assouplissement des hanches.
D'accord, alors là on a beaucoup parlé de souplesse physique, de souplesse du corps, mais je voudrais qu'on s'intéresse à la notion de souplesse de manière un petit peu plus générale, et tu l'as évoqué tout à l'heure déjà, la souplesse du mental, de l'esprit, qui est finalement une part aussi importante et même plus importante dans la pratique du yoga. Alors qu'est-ce que ça veut dire souplesse de l'esprit? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
Comme on disait, un débutant arrive à un cours et il faut qu'il mette son ego de côté quand il arrive, parce qu'il a l'impression de devoir se comparer à tout le monde, etc. C'est aussi ça qu'on apprend en yoga, c'est réussir à assouplir son mental, à devenir un peu plus... comment dire ?
Flexible ?
Ouais, un peu plus flexible en se disant « Ok, en fait, peut-être que... je ne peux pas faire ça maintenant, ou peut-être que cette posture, je devrais la faire plutôt comme ça, et c'est très juste de la faire comme ça. Finalement, il n'y a pas qu'une seule vérité, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Donc c'est aussi réussir à comprendre, en fait, un peu plus, à se comprendre et à être plus gentil envers soi-même, c'est-à-dire être bienveillant. Et ça, je pense que ça fait partie de la flexibilité aussi de son mental, réussir à se laisser, à lâcher prise en fait, et éviter d'être toujours dans ce faire juste, c'est cette posture et pas une autre, c'est comme ça le yoga, si on me dit ça, c'est que ça doit être comme ça. Faut aussi ouvrir un petit peu son champ et son esprit et se dire ok, on me dit ça, très bien, moi comment je le ressens. Voilà, parce qu'on peut aussi très bien tomber sur des professeurs qui ne sont pas dans votre corps finalement. et c'est tout l'intérêt du yoga, c'est que c'est chacun à son niveau, chacun à sa pratique. Et un professeur pourra vous dire quelque chose, il a beau être le meilleur professeur du monde, si vous vous rendez compte que dans cette posture, de la manière dont il vous l'a expliqué, vous le ressentez pas comme ça, ou vous sentez que ça vous fait mal... Eh bien non, en fait, il faut savoir aussi justement être flexible par rapport à ça, par rapport à soi-même, et se dire « Ok, en fait, pour moi, ça va pas le faire, et c'est très bien comme ça, en fait. » Et c'est ça aussi, je pense, qui est intéressant de se dire, c'est que On a souvent l'impression qu'il faut suivre une personne, ou c'est comme ça qu'il faut aller, ou c'est ce type de yoga qu'il faut faire, mais en fait, on se rend compte avec pratiquant et avec soi-même que c'est ce qui est bon pour nous, en fait, on le sait au fond, il suffit de le trouver et d'être juste avec nous-mêmes, quoi qu'on dise autour de nous, en fait. Ça aussi, ça fait partie du yoga, ouais.
Et la souplesse, c'est aussi la capacité d'adaptation. Est-ce que ça, la pratique du yoga, ça nous aide à progresser là-dessus aussi, sur notre faculté à nous adapter ?
Oui, complètement. Ouais. S'adapter aux aléas de la vie. Déjà, s'adapter aussi au confinement, par exemple, qui nous a beaucoup aidés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis au yoga en étant confinées, parce qu'en fait, mentalement, c'était très dur. Et on avait beaucoup de choses bloquées en nous, beaucoup de choses bloquées en tête, beaucoup de stress, d'angoisse, de questionnement. Et le yoga nous permet aussi de libérer toute cette charge mentale, en fait, qu'on peut avoir. Donc en passant par les asanas, mais ça parle aussi de méditation, ça parle beaucoup de respiration. Et ça passe d'abord par ça, finalement. Par quelques exercices de respiration, on va tout de suite venir s'apaiser. C'est immédiat, en fait. En un seul cours de yoga, on va ressentir cette libération et voilà, cette ouverture où on laisse un petit peu aller. Et c'est ça aussi, c'est réussir à s'adapter du coup à cette nouvelle vie ou à des nouveaux modes de vie qu'on est en train de vivre là maintenant, et réussir à accepter et à se dire ok, bah, on fait avec, ça va aller et c'est bien, ça va comme ça.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur la souplesse qu'on n'aurait pas abordé ?
Je pense que c'est important de rappeler que voilà, en étant pas souple, je l'ai redit il y a pas très longtemps pendant un de mes cours, mais c'est vrai que il y a tellement de belles choses qui arrivent quand on commence le yoga, en fait. Il y a tellement de choses à découvrir, des sensations nouvelles, des nouvelles manières de ressentir une posture, etc. C'est un beau cadeau, en fait. Il ne faut pas voir ça comme une montagne et se dire que oh, non, j'y arriverai jamais, c'est impossible. Finalement, c'est magique, en fait, le yoga, quand on commence.
Et alors toi, tu en es où, du coup, côté souplesse, puisque tu nous disais que quand tu as commencé, tu n'avais pas ton grand écart. Est-ce que ça, ouais. Est-ce que tu l'as vu, toi, sur ton propre corps, la différence que ça a fait, le yoga ?
Je l'ai vu parce que, bon, déjà, moi, quand j'étais, du coup, en entreprise, j'avais ces fameux maux de dos, de tête, plein de soucis aussi, de stress, plein de choses qui sont très vite apaisées en faisant du yoga. Bon, j'ai commencé deux fois par semaine, trois fois par semaine, et ça commençait déjà à se ressentir vraiment fort. Les changements, déjà vraiment je l'ai ressenti au niveau mental, hein. Ça m'a fait immédiatement du bien dans mon mental, et ensuite dans mon corps je ressentais après un cours d'hatha yoga comme si je m'étais fait un massage à moi-même, en fait. Je ressentais comme si je... Alors il y a ce sentiment une élève m'avait dit, et c'est vraiment ça, c'est quand on a fait qu'on allait à la piscine et qu'on a fait beaucoup de natation et qu'on vient de prendre une douche chaude juste après, on a ce petit sentiment de flottement et on est sur un petit nuage, et c'est exactement ce que je ressentais, en fait, à la fin de mes cours de yoga. Et je me disais, mais c'est quand même dingue de ressentir ça. Enfin, après chaque cours, moi, c'était l'extase, quoi. Donc j'ai continué parce que je sentais que c'était bon, en fait, pour moi. Et en fait, à force, oui, effectivement, la flexibilité, la souplesse du corps apparaissait de plus en plus, parce que finalement, j'étais pas si souple que ça. Et donc c'est là que j'ai commencé à ressentir que effectivement je commençais à me sentir mieux. Bah, par exemple, dans la pince assise, celle dont je parlais tout à l'heure, je la détestais, cette posture, au début. C'était pas une posture qui me faisait du bien, je comprenais pas. Et en fait, finalement, à force de la travailler, j'aurais pu bien rester une respiration supplémentaire. Je ressens quelque chose de différent, c'est agréable. Et ça, pour plein de postures. Et en fait, à force de répétition des postures, on se rend compte de l'évolution, et on est encore plus heureux, finalement, de se dire ah, super, mon chemin dans cette posture continue, et là j'ai des nouvelles choses à découvrir. Alors oui, effectivement, avec le yoga, j'ai réussi à avoir ce fameux grand écart, mais c'était pas un objectif de vie. Mais effectivement, comme plein d'autres postures, on se rend compte qu'on évolue et qu'on arrive à faire des choses qu'on ne pensait même pas possible avant. Mais c'est aussi beaucoup d'écoute de soi, et vraiment aussi beaucoup de régularité dans la pratique, hein. C'est sûr qu'en faisant du yoga une fois tous les mois, on ne voit pas d'évolution, mais en faisant vraiment très régulièrement, plusieurs fois par semaine, on voit vraiment quelque chose qui change non seulement dans son corps, mais aussi autour de nous. Même les gens autour de nous nous le disent, quoi. Le yoga, ça t'a changé, et ça te fait rayonner, quoi. C'est ça qui est aussi dingue. Voilà.
Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment si on veut pratiquer avec toi, que ce soit en ligne ou peut-être en vrai?
Alors pour l'instant, en vrai, c'est compliqué de dire, et ça, on verra comment on fera d'ici 2021. En attendant, oui, je suis en ligne, beaucoup, très présente en ligne. Donc je propose des cours ouverts à tous sur YouTube, sur Facebook en direct, qui sont gratuits en direct. Et ensuite, si on veut revoir ces vidéos et si on veut continuer à faire d'autres programmes, par exemple j'ai un programme spécial pour les débutants sur ma plateforme en ligne, et ça c'est disponible sur la plateforme du coup qui s'appelle camsyoga.fr. Et voilà, on a vraiment plein de cours, on a les différentes justement parties du corps qu'on veut, si on veut travailler spécifiquement une partie du corps, il y avait les cours en fonction de ça, il y a des différents niveaux, différentes intensités, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc voilà,
on peut tester. Je mettrai les liens dans la description, ouais, voilà. Comme ça les gens pourront te retrouver facilement. Ouais. Et puis je vous conseille aussi de jeter un œil à un livre qui s'appelle « Pas besoin d'être souple pour faire du yoga ». C'est sorti il n'y a pas très longtemps chez Le Duc S, c'est de Catherine Millepied-Flory. Donc elle revient sur la notion de souplesse, sur ses bienfaits au quotidien. Et vous pourrez y trouver plein de postures accessibles, quel que soit votre degré de souplesse, grâce à des variantes. Par exemple, il y a du yoga assis, il y a du yoga avec des sangles. Donc voilà, ça permet de progresser petit à petit. Donc merci beaucoup Camille pour cet échange.
Merci beaucoup à toi, c'était super chouette.
Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et aussi à me mettre une note et un commentaire sur vos applis de podcast, notamment sur Apple Podcasts, ça m'aidera à le faire connaître. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode autour du yoga.